demain matin, nous avons notre première séance des psychanalyses.
Mais ça va pas la tête.
Yeah. Il faut vaincre tes terreurs.
Ça demande psychologie, doigté, souplesse.
Réchiste ta pensée.
Je pense que t'es un ouf, toi.
Ah, je suis zinzin. Je suis zinzin.
Bonjour à tous, les bienfaits de la nostalgie, c'est le thème ce matin dans Ça va pas la tête. Une émission préparée par Agathe Le Taillandier et Lily Tsahakian avec l'aide de Lorraine Bess et réalisée par François Audouin. Je me souviens du petit train jaune qui ressemblait à un jouet. Nous le prenions à la tour de Carole pour aller à la piscine de Séja. Je passais alors une partie de l'été dans une colonie de vacances de la SNCF au début des années 1980. Je me souviens de la salle de télé de la Colo un soir de juillet 1982. J'allais fêter mes 10 ans et nous regardions le mondial qui se déroulait en Espagne en robe de chambre et parfumée à l'eau de Cologne. La France pleurait de rage et de tristesse après son élimination contre l'Allemagne à Séville. Je me souviens du chou rouge que je refusais obstinément de manger au réfectoire et de ma solitude devant l'assiette maudite que Sampé aurait pu dessiner alors que mes camarades allaient faire la sieste sur la terrasse de la Montagna, la Colo de mon enfance, à Anvech. Voilà un petit morceau de nostalgie que je vous livre impudiquement. La nostalgie, notre thème du jour. Quels sont ses bienfaits, ses vertus créatives? Est-elle forcément mélancolique? C'est la question que je poserai à nos invités. Et puis nous évoquerons quelques films nostalgiques comme Nous nous sommes tant aimés d'Ettore Scola et Le guépard de Visconti. Nous verrons que la cinéphilie est bel et bien la fille heureuse de la nostalgie.
France Inter, Ali Rebbi.
Oui, ça ne va pas bien.
Ça va pas la tête.
La première fois que j'ai emmené ta sœur faire des patins à glace, on était là-bas. Elle était nerveuse, mais j'avoue que j'étais pas fier non plus sur la glace.
La glace, c'est un truc débile. Les patineurs sur glace, c'est encore plus débile.
Et là, au fond, elle est tombée. J'ai à peine eu le temps de l'attraper. Elle s'est accrochée à mon bras et je l'ai sentie sous son manteau. Tout électrique.
Tu sais que là, tu répètes ce que t'as dit l'année dernière.
Elle disait que c'était pas tellement
un gâteau
physique,
mais
mieux que le travail des ménages.
Ah, elle disait
vous
ça. Vous
n'avez pas vu
le travail
qu'est-ce que tu as
fait
comme...
Ok, on y va.
C'est
ni chanté, ni
penser. On a fini. Y a rien pour s'asseoir ici.
Allez, ça va.
Non, ça va pas. J'ai le bourdon. J'ai froid et puis j'en ai ras-le-bol.
Enfin, qu'est-ce que t'as ce soir?
J'en ai marre, tu vis à reculons. Change de chaîne, c'est terminé ce temps-là. Et puis arrête d'enjoliver.
C'est mes souvenirs à moi.
Je les aime pas.
Un extrait de Rocky Balboa 2 et avec Sylvester Stallone, sorti en France en 2007. Bonjour Benoît Dutertre.
Bonjour.
Romancier, producteur à France Musique, journaliste à Marianne. Ça vous file le bourdon, la nostalgie?
Non, la nostalgie, ça fait du bien. Au contraire, c'est amusant parce que vous avez cité tout de suite vous avez fait Je me souviens. Je me souviens, au fond, c'est Pérec. Pérec, c'est un écrivain d'avant-garde. Et ce qu'on préfère de lui, ce qu'on connaît le mieux de lui, c'est une série de souvenirs nostalgiques. Et la nostalgie, ça fait avancer les choses aussi. C'est ça qui est intéressant et paradoxal, peut-être.
Vous venez, Benoît Dutertre, de publier un essai salué par la critique, hein, du Figaro à l'Obs, en passant par Libé ou La Croix. Ça s'appelle La nostalgie des buffets de gare, publié chez Payot. Ça vous étonne, Benoît Dutertre, une telle unanimité de la presse pour ce pamphlet contre l'administration des chemins de fer?
Ce qui m'a surpris surtout, parce que c'est vrai que souvent je suis classé nostalgique pour ne pas dire réac par certains, donc là il y avait quand même toute la presse de gauche qui a trouvé ça bien, mais en fait c'est un livre très critique sur le monde moderne et donc sur le capitalisme moderne et ce qu'il engendre, donc c'est au fond ça peut se comprendre. Ça, c'est presque finalement le fait que le Figaro aimait qui était presque plus paradoxal, même si en général il m'aime bien.
Nous y reviendrons largement tout à l'heure, mais que nous raconte cette nostalgie des buffets de gare? Il ne s'agit pas d'une nostalgie en sépia, hein, qui célébrerait jusqu'à la nausée l'ère du c'était mieux avant.
Non, surtout pas. C'est un livre très critique sur la transformation des chemins de fer, mais dans lequel j'essaie plutôt de peser toujours au fond qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on a perdu, en racontant simplement mon expérience d'usager, puisque moi je me considère encore comme un usager plutôt qu'un client, mais c'est une des questions soulevées dans le livre. Et donc voilà, je raconte mes voyages en train, les voyages en train depuis mon enfance, pourquoi est-ce que le Paris-Le Havre faisait 1h50 quand j'avais 15 ans et fait 2h30 aujourd'hui, est-ce que c'est un progrès ou une régression. C'est des vraies questions par rapport à voilà. Donc j'essaie de les poser vraiment parce que j'ai vécu et d'en tirer une réflexion au fond sur la nostalgie. Voilà, dans quel sens les choses vont. Est-ce que c'est toujours vers le mieux? C'est vrai qu'il y a toujours une guerre de presque idéologique contre l'idée que c'était mieux avant, mais parfois il y a des choses qui étaient mieux avant. Et voilà, donc la nostalgie, ça peut être l'instrument d'une espèce de critique concrète du monde dans lequel on vit.
Bonjour Patrick Dandré.
Bonjour.
Je suis ravi de vous recevoir. Vous êtes professeur de littérature classique à la Sorbonne, spécialiste de la littérature et de la culture du XVIIe siècle. Vous avez notamment publié chez Gallimard une anthologie de l'humeur noire, écrite sur la mélancolie d'Hippocrate à l'Encyclopédie. Et vous venez de publier Louis XIV a dit, mots et propos du roi Soleil, aux belles lettres. Patrick Dandré, la nostalgie est-elle forcément une humeur noire ?
La nostalgie a rapport avec l'humeur noire. Au départ, c'est une maladie, et c'est une maladie qu'un médecin a définie. C'est amusant, c'est le seul mot sans doute que nous allons prononcer pendant toute cette émission, dont je peux vous dire à quelle date il a été créé, par qui. Parce que la plupart du temps, les mots, on ne sait pas qui les a inventés. Mais la nostalgie, je sais que c'est un monsieur qui s'appelait Johannes Hofer, qui a donné ça pour titre à sa thèse de doctorat à Bâle, en 1688. Et il désignait par là ce qu'on appelait plus vaguement le mal du pays, c'est-à-dire, en gros, la maladie de l'exil, ce qui est à la fois extrêmement ancien et extrêmement moderne, puisque notre civilisation est fondée sur deux textes, notre culture en tout cas, sur deux textes de l'exil, la Bible et l'Odyssée, ce sont des textes de terre perdue et de terre promise, et qu'en même temps, c'est tout à fait moderne, puisque sans doute aucune civilisation n'a connu autant de migrations de population que celle que nous connaissons en même temps, et avec ces douleurs que crée le dépaysement, le déracinement. Car au départ, c'est une maladie de l'espace perdu. Et l'étonnant, c'est comment cette maladie vraiment pathologique de l'espace du pays natal que l'on a perdu et qu'on analysait chez les mercenaires suisses qu'on employait dans les armées d'Europe et puis qui tombaient malades quand ils avaient soudain le sentiment qu'ils ne reverraient jamais leur charmante patrie. Comment cette maladie de l'espace est devenue une nuance de la sensibilité du temps? Parce que quand nous parlons de nostalgie, quand vous parlez, Benoît, de nostalgie, c'est un peu quand même le temps qui a passé. Et c'est une nuance de l'herbier de nos sentiments. Et de même que le mot mélancolie était au départ une maladie de l'humeur noire, est devenu, disons, une variante, une variation de sensibilité, une nuance dans l'arc-en-ciel du sensible. Ah ben de même, la nostalgie, qui était au départ un terme bien médical, comme névralgie ou coxalgie, d'ailleurs on reconnaît le racine, hein, algie, c'est la souffrance, est devenu progressivement, à la faveur de la poésie, des films dont vous avez parlé, une nuance du sensible, où il entre effectivement de la noirceur, mais aussi, je dirais, de la délectation.
Bonjour Éric Libiot.
Bonjour Ali.
Chef du service art et spectacle de l'Express, critique ciné assez redouté. J'ai l'impression que la cinéphilie est l'une des filles chéries de la nostalgie.
Mais oui, moi qui suis atteint de cinéphilie aiguë, retrouver les films, retrouver cette cinéphilie, c'est entretenir l'idée, le désir, le besoin de replonger dans ce que nous avons aimé, dans la première image. Hein, la cinéphilie, c'est aussi le territoire de l'enfance. Moi, quand je revois pour la 52e fois la goutte de sang tombée dans le verre de bière dans Rio Bravo, je suis dans un état d'euphorie absolue, parce que je sais ce qui va se passer, je sais ce qu'il y a eu avant, je sais ce qu'il y a eu après. Et puis, ce moment-là, je sais retrouver le plaisir que j'ai eu de la première fois. La cinéphilie, c'est vraiment retrouver la première fois, la première image.
Et puis, nous reviendrons avec vous sur quelques films nostalgiques. Nous nous sommes tant aimés, d'Ettore Scola ou Le Guépard de Visconti, un choix forcément très subjectif. D'ailleurs, dites-nous quels sont pour vous les grands films nostalgiques sur l'appli de France Inter ou sur Twitter, hashtag ça va pas la tête. Zia, la chouchou de notre réalisateur qui interprétait La Vague.
Mais ça va pas la tête.
France Inter, Ali Rebi.
Ça me dérange pas que tu sois timbré.
Ça va pas la tête.
9h23 et on s'intéresse ce matin aux bienfaits de la nostalgie avec le romancier Benoît Dutertre, le professeur de littérature Patrick Dandré et le journaliste Éric Libiot.
Ah mais que faites-vous des années 20 avec le Charleston et les Fitzgerald et les Hemingway? Moi j'ai adoré tous ces gens.
Mais c'est le présent, c'est ennuyeux.
Ennuyeux? Enfin, moi c'est pas mon présent. Moi je viens de l'année 2010.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Moi je suis passé vous voir exactement comme nous on est passé dans les années 1890.
C'est vrai?
Oui, moi j'ai essayé de fuir mon présent comme vous, vous essayez de fuir votre présent pour connaître l'âge d'or.
Vous n'allez pas me dire que vous trouvez que les années 20 sont un âge d'or?
Eh ben si, pour moi c'est ce qu'elles sont.
Mais moi je viens des années 20 et je peux vous dire que l'âge d'or c'est la belle époque.
Mais regardez ces gars, vous les voyez? Pour eux l'âge d'or c'est sûr que c'était la Renaissance. Croyez-moi, je suis certain qu'ils troqueraient la belle époque pour peindre aux côtés du Titien et de Michel-Ange. Eh bien, ceux-là, ils devaient imaginer que la vie était plus belle quand Kublai Khan était dans le coin.
Un extrait de Midnight in Paris de Woody Allen en 2011, un film qui met en scène donc la nostalgie d'un Américain à Paris. Pour le Montparnasse des années 20, celui d'Hemingway et de Fitzgerald, Éric Libiot, antenne, vous faisiez une réflexion passionnante.
Mais je vous remercie. Non, je me demandais si tout d'un coup, parce que la nostalgie là, dans ce film-là, Owen Wilson, il plonge physiquement dans un monde qu'il ne connaît pas, dont il rêve. C'est le monde des années 20 avec Hemingway, parce qu'il essaie de terminer un bouquin. Donc évidemment, il rencontre Gertrude Stein, Hemingway, Picasso, etc. Et puis à côté, il y a d'autres films comme Nous nous sommes tant aimés, où on revit ce qu'on a vécu. Donc je me demandais. Si la nostalgie était liée à la connaissance ou à la reconnaissance, est-ce qu'il fallait forcément revivre ce qu'on a vécu ou est-ce que la découverte de ce qui était avant fait aussi partie de la nostalgie? Je laisse à l'appréciation et je voudrais bien qu'on parte sur un débat là-dessus.
À quelle époque auriez-vous aimé vivre autour de la table, Patrick Dandré?
Je dirais dans le passé, parce que le passé est le domaine de notre liberté, de notre choix. Donc quel que soit le passé, c'est toujours intéressant. Mais justement, on ne peut pas y vivre puisqu'on l'aime en tant qu'il a disparu.
Benoît Dutertre.
Ah, moi, j'ai un âge d'or. À l'évidence, c'est effectivement un peu comme Woody Allen. Hein. C'est le Paris de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle, de l'entre-deux-guerres encore. Je pense qu'on a globalement tous, plus ou moins, enfin souvent, je crois même que ça existe en psychanalyse, il y a un peu un rejet de la génération des parents et une idéalisation, vous savez, du monde des grands-parents. Ou juste avant. Mais j'aime bien ce temps qui est encore assez proche de nous, qui existe encore par des photos, par des souvenirs, par des traces, mais qui en même temps n'est pas trop éloigné.
Éric Libiot.
Ah non, moi je suis pas nostalgique de ne pas avoir vécu avant. Je suis même assez content de vivre aujourd'hui, d'être là avec vous, Ali. Et je serais même assez content de savoir ce qui va se passer dans l'avenir. Mais peut-être que c'est un peu la même chose finalement, puisque c'est l'inconnu, ce qu'on connaît et ce qu'on ne connaît pas, c'est ce qui nous construit.
Oui, mais c'est drôle, le passé est aussi intéressant que l'avenir. Mais on vit dans une époque qui a tendance à considérer toujours que l'avenir est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus important que le passé. Moi, j'ai le sentiment qu'on vit à cheval entre le passé et l'avenir et que donc, finalement, les deux, faut regarder les deux côtés.
Oui, non,
et qu'on
ne se nourrit que des deux. Moi je suis passionné par ce qui va se passer et puis parfois, quand ça m'effraie, c'est vrai qu'on se replonge dans ce qui s'est passé avant parce que ça
pas
ça parce nous
seulement
conforte,
ça rassure, parce que ça nous enrichit aussi. Le passé est aussi riche, mystérieux, immense, vaste, plein de choses qu'on ignore que l'avenir.
Alors, mon petit Robert me chuchote à l'oreille que la nostalgie, c'est le regret mélancolique d'une chose révolue ou de ce que l'on n'a pas connu, synonyme, Patrick Dandré le rappelait tout à l'heure, de vague à l'âme, de regret, de mal du pays, de mélancolie. Patrick Dandré, existe-t-il une différence de nature entre la nostalgie et la mélancolie?
Oui, la différence, elle est d'abord dans l'origine pathologique. Hein. La mélancolie, comme son étymologie le dit, c'est une maladie de l'humeur noire. Et lorsque la nostalgie a été inventée, on a essayé de la pathologiser, en somme, de donner une dimension pathologique au mal du pays. Mais immédiatement, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas grand-chose à en dire du point de vue médical et beaucoup à en dire du point de vue, je dirais, symptomatique. Et c'est par la symptomatique que la psychologie va s'insérer à l'intérieur de la pathologie. C'est-à-dire qu'on va trouver progressivement des traits de caractère. Quand on cherche des causes, alors c'est assez amusant, parce que la première cause, on a pensé que les Suisses qui débarquaient dans les armées européennes avaient sans doute les fibres du cerveau un peu faiblardes, et donc ça les mettait en prostration. Quand ils avaient des idées de Suisses qui revenaient trop souvent, leur cerveau finissait par être un peu abîmé par ce ressassement. Et alors, un Suisse contemporain du créateur du mot, Hofer, a dit, mais pas du tout, les Suisses sont des gens très bien, c'est simplement parce qu'ils sont montagnards. Alors, comme dans les montagnes, l'air est très pur, ils ont les conduits du sang, des nerfs, etc., extrêmement fins. Alors, quand ils arrivent dans les villes polluées, genre Paris, déjà à cette époque, Paris était pollué, il n'y avait pas d'automobile, mais enfin, la pollution, c'est une idée depuis toujours, avec le marais, vous savez, qui est au centre, plein de miasmes, tout ça. Alors, ils font des maladies d'obstruction, ils ne peuvent plus respirer, et c'est ça qui les rend nostalgiques. Donc, c'est une maladie aérienne, si vous voulez.
Patrick Dombré, l'un des grands personnages nostalgiques de l'Antiquité, vous le disiez tout à l'heure, c'est Ulysse, hein, oui. Qui prend plaisir à retarder son plaisir, mais dans le même temps, Ulysse souffre de ne pas rentrer.
Certes, et il y a pour correspondance au mythe d'Ulysse qui est malade de son retour, d'ailleurs nostalgie, ça veut dire algie du nostos, maladie du retour, hein, du retour impossible. Il y a sa femme qui fait une chose encore plus intéressante puisqu'elle tisse une tapisserie en disant au prétendant à sa main, à ceux qui veulent succéder à Ulysse que l'on croit mort, qu'elle les épousera quand la tapisserie sera finie. Et puis le jour, elle tisse et la nuit, elle détisse. Et je trouve ça magnifique comme idée de la nostalgie. On sait que les Parques tissaient le fil de la vie, mais elle le tissait dans un seul sens, c'est-à-dire en allant vers l'avenir. Et Pénélope, et c'est pour ça qu'elle le fait la nuit, parce que c'est le monde des rêves, détisse, c'est-à-dire qu'elle met le temps à circuler dans l'autre sens. Ça, je trouve que c'est une merveilleuse idée de nostalgie.
Benoît Dutertre, je rappelle que vous avez publié La nostalgie des buffets de gare. Pour vous, les gare suscite la mélancolie.
Oui, enfin la nostalgie plutôt. En l'occurrence.
Non, vous l'écrivez dans votre essai.
J'ai oui, bien noté. Parce que parfois j'ai de pas prendre le même mot, mais c'est pas toujours très juste. Parce que justement, en général, j'essaie quand même plutôt d'utiliser très volontairement la notion de nostalgie que celle de mélancolie dans laquelle il y a, je trouve, beaucoup plus de souffrance que dans la nostalgie, qui est une valeur poétique au fond assez bienfaisante.
La nostalgie, c'est une joie triste.
La nostalgie, c'est pas une joie forcément triste. Pour moi, c'est une espèce de rêve rêve éveillé comme ça. Mais en tout cas, c'est vrai que les gares, si vous voulez, les gares de mon enfance, elles me rendent forcément un petit peu nostalgique parce que c'était des gares qui n'étaient pas transformées en galeries commerciales, si vous voulez. Vous savez, il y a eu des grands effets d'annonce pour la transformation de la gare Saint-Lazare pendant des mois comme ça, et puis tout d'un coup, on a vu une espèce de supermarché avec toutes les marques qu'on voit n'importe où dans le monde, dans n'importe quelle rue du monde. Et on nous a dit, ça c'est le mouvement vers l'avant, c'est le contraire de la nostalgie. Moi, évidemment, je préférais le petit bout de comptoir où on pouvait s'appuyer pour prendre un croque-monsieur entre un clochard et un homme d'affaires en train de fumer sa cigarette. Je préférais les buffets qui ressemblaient dans chaque ville un petit peu à une espèce de décor de la région où on se trouvait plutôt que le Starbucks Coffee ou le Burger King qu'on nous met maintenant à la place. Encore le monde des marques de tous les buffets de gare. Donc voilà, là j'ai effectivement un point de départ assez riche pour la nostalgie.
Alors il travaille dans un grenier d'antan.
Dans quoi ? C'est quoi ça ?
Oh, c'est pas un de ces magasins où on vend des poupées à l'effigie de Shirley Temple, des vieilles radios. Exactement. Je me demande toujours qui peut acheter ces trucs, qui en voudrait ?
Des gens qui vivent dans le passé. Des gens qui pensent que leur vie aurait pu être plus heureuse s'ils avaient pu vivre autrefois.
Ah, et si on jouait au jeu de la vérité ? Et toi, Marcel Proust, t'aurais préféré vivre à quelle époque ?
À Paris, dans les années 20,
ouais.
Sous la pluie.
Oh,
pardon, quand la pluie n'était pas une pluie acide.
Oh, je vois, sans réchauffement planétaire, sans télévision, sans attentat suicide, et sans armes nucléaires et sans...
Le tableau habituel d'histoire d'horreur rebâtie.
Bah, vous savez, la nostalgie est un déni. Le déni qu'on fait d'un présent pénible.
Oh, eh bien, Gil alors est un vrai romantique. Je veux dire qu'il serait plus heureux de vivre dans un complet état de perpétuel déni.
Et le nom qu'on donne à cette illusion, c'est syndrome de l'âge d'or.
Ah.
Oui, c'est la notion erronée qu'une période différente est meilleure que celle que l'on vit. Et vous savez, ça, c'est une faille dans l'imagination romantique de ces gens pour qui il paraît difficile de faire face au présent.
And that's why birds do.
Patrick Dombré, contrairement à ce que nous dit cet extrait de Midnight in Paris de Woody Allen, le bon vieux temps, le c'était mieux avant, n'a rien à voir avec l'âge d'or. L'âge d'or renvoie plutôt à un récit des origines.
Oui, il y a dans la nostalgie une dimension triple, je dirais. Il y a la dimension du mal du pays qui est très concrète, une dimension d'espace. Il y a une dimension de âge du regret. Vous savez, avant que le mot nostalgie n'existât, on employait le terme de regret. Du Bellay nous a laissé un recueil de regrets où il est nostalgique depuis l'Italie de sa petite patrie ligérienne. Et puis il y a un sentiment d'insatisfaction. Et puis il y a une troisième dimension qui serait le sentiment d'insatisfaction. Alors là, le sentiment d'insatisfaction, il n'est orienté ni vers l'espace ni vers le temps. Il est global. C'est-à-dire qu'il y a dans la nostalgie le sentiment de ne pas être à l'aise dans le présent, mais que dès que le présent sera devenu le passé, on pourra le consommer sous la forme de la nostalgie. C'est donc, c'est un peu, je dirais, comme un travail de deuil, la nostalgie. C'est-à-dire que ça a tous les désavantages et toute la souffrance du deuil, mais ça a en même temps l'immense avantage de faire adhérer à la souffrance de vivre. Et en cela, c'est sans doute le sentiment le plus proche du vécu. Puisque vivre, c'est finalement mourir chaque seconde.
Voilà du Tertre, la nostalgie, c'est l'une des matières premières et précieuses du poète, et c'est l'une des principales sources de créativité chez les écrivains.
Ah oui, ça c'est sûr. Enfin, on peut discuter des bienfaits ou des maux de la nostalgie du point de vue peut-être politique ou social, mais en littérature, d'abord bien avant l'invention dont vous nous parliez, Patrick Dandré, du mot nostalgie, par exemple, citons simplement les poètes de la Renaissance, dont tout le mouvement est fondé sur la nostalgie de l'Antiquité, et cette volonté de recréer quelque chose qui ressemblerait à l'Antiquité. En fait, c'est comme ça, à ce moment-là, que la poésie avance d'une certaine façon. Et les grands romanciers du 19e siècle également, je parle de ceux que je préfère, mais qui sont en l'occurrence Balzac et Flaubert, qui sont quand même deux hommes qui sont complètement amoureux, enfin Balzac encore plus, mais d'un passé révolu, et qui sont dans un regard très très critique sur leur époque, et qui en même temps font de cette façon-là avancer, évoluer l'art du roman.
Patrick Dandré.
Vous savez que c'est chez Balzac que la première fois le mot nostalgie apparaît en un sens psychologique qui n'est plus un sens pathologique.
Ah oui.
C'est dans Pierrette en 1840. Et l'étonnant, c'est qu'en 1835, dans Louis Lambert, il emploie encore le mot au sens médical. Et alors, en 5 ans, on sent que la société a changé.
On peut continuer avec Proust, évidemment,
oui,
dans l'œuvre complet, n'est qu'un exercice de nostalgie. Et pourtant, il fait avancer, lui aussi, l'art du roman.
On consacrera jeudi une émission à Proust et à la mémoire. Bonjour Agathe Le Taillandier.
Bonjour Ali.
Vous êtes prof de lettres et vous collaborez à l'émission. Quand on pense à la nostalgie au théâtre, on pense bien sûr au théâtre de Tchekhov, Les Trois Sœurs en 1900 et La Cerisée en 1904.
Oui, tout à fait. Je pense que Tchekhov a vraiment su raconter un monde en plein bouleversement. On est au début du siècle en Russie. C'est la fin, ce qu'il décrit dans ses pièces, beaucoup, en fait, c'est la fin d'une aristocratie et la naissance d'une bourgeoisie commerciale, industrielle, qui s'est enrichie progressivement. C'est exactement ce que raconte La Cerisée. En fait, c'est la fin d'un monde, la naissance d'un nouveau monde. Il ne porte pas forcément de jugement là-dessus, mais c'est en tout cas le regard porté sur l'avant, sur un monde décadent, un monde qui est en train de disparaître. Dans La Cerisée, c'est effectivement le personnage de Lyubov qui revient chez elle dans sa cerisée qu'elle aime tant avec sa famille, et en fait elle va être obligée de vendre cette maison puisqu'ils sont trop endettés, ils ne peuvent pas la garder. Donc derrière cette cerisée, c'est bien sûr le rapport à l'enfance, à un monde perdu, et donc ça va être le lieu de l'émergence du souvenir et du coup d'une lutte entre ce passé et le personnage de Lopakhine qui doit racheter la cerisée. C'est aussi effectivement, comme vous l'avez dit, ce que racontent les trois sœurs de Tchekhov avec ces trois Olga, Masha et Irina, qui veulent absolument repartir à Moscou, le lieu de leur enfance, où elles ont vécu avec leur père mort. Donc le théâtre de Tchekhov est vraiment traversé par des personnages nostalgiques et qui surtout ont le temps d'être nostalgiques, puisqu'ils sont dans l'attente, ils font pas grand-chose sur scène, ils parlent beaucoup, ils se souviennent, et donc ils ne font que rêver à ce passé perdu. Et c'est aussi pour ça, je pense, que c'est si passionnant d'aller encore voir au théâtre mis en scène Tchekhov aujourd'hui, cette confrontation entre des personnages nostalgiques qui se souviennent et un art profondément présent, un art de l'ici et du maintenant qui est l'art du théâtre. Donc par exemple à la rentrée il y a une cerisée au théâtre de la Colline mis en scène par un collectif qui s'appelle le Tégestan. Je conseille les auditeurs d'aller découvrir parce que c'est intéressant, voilà, de voir qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec Tchekhov.
Le théâtre de Tchekhov à lire ou à relire également en poche chez Babel, Folio ou au livre de poche. Réagissez, témoignez sur l'appli de France Inter ou sur Twitter, hashtag ça va pas la tête.
C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. linge étendu sur la terrasse. Et c'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps. Et la vie sûrement plus d'un million d'années. Il y a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse. Il y a plein de chiens. Il y a même un chat, une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien. On dirait le sud. Le temps dure longtemps. Et la vie sûrement plus d'un million d'années.
Nino Ferrer qui nous rend tous nostalgiques autour de la table, le Sud.
La vie moderne vous effraie? Vous ne vous sentez pas à votre place dans le temps présent? Ne ronchonnez plus. Profitez de la collection « C'était mieux avant, les grands auteurs réac du 21e siècle ». Alain Finkielkraut, Michel Houellebecq, Elisabeth Lévy, avec la collection « Les grands auteurs réac du 21e siècle », c'est l'assurance de retrouver le temps béni des colonies quand l'ordre et la morale étaient de vraies valeurs. Le premier numéro, l'essai d'Éric Zemmour refusé par toutes les maisons d'édition, Il avait bien raison Napoléon, et la figurine de son auteur pour 2,50 francs seulement chez votre marchand de journaux. La collection, c'était mieux avant les grands auteurs réac du 21e siècle, une collection aïe aïe aïe.
Ça va pas la tête.
Pastille signée François Audouin avec la voix d'Éric Oswald. Les adeptes d'Éric Zemmour ou d'Alain Finkielkraut peuvent s'adresser directement à François Audouin pour réclamer leur fascicule ou faire des réclamations. 9h42 sur France Inter et on s'intéresse ce matin aux bienfaits de la nostalgie avec le romancier Benoît Dutertre, le professeur de littérature Patrick Dandré et le journaliste Éric Libio. Alors il y a un tweet de Samia Stambouli qui nous dit « Quelqu'un pour taper juste un peu sur l'illusion rétrospective du « c'était mieux avant » Éric Libio ».
Oui, non, la nostalgie, je ne pense pas que ce soit l'idée de « c'était mieux avant ». C'était juste retrouver des moments de bonheur. Le côté « c'était mieux avant », c'est plutôt le côté réactionnaire. Moi, pour parler de la cinéphilie qui est pour moi symptomatique de la nostalgie, je n'ai pas la nostalgie des films muets de 1912 à 1917. C'était pas mieux avant. Il y a eu des navets en 1917. Alexandre Arcadie a tourné des films très mauvais en 1980. Donc, et puis il y a des films formidables aujourd'hui et tout ça. Donc, il n'y a pas le côté « c'était mieux avant », c'est juste retrouver un plaisir perdu, une nostalgie, une part d'enfance.
De l'auditeur.
Oui, mais en même temps, c'est intéressant tout ce qu'on vient d'entendre, ce que vous dites, l'espèce de petit pastiche, tout ça. Il y a quand même une guerre à l'idée que ça ait pu être mieux avant. C'est quelque chose qui est très fort dans notre époque. D'ailleurs, le discours politique, notamment, est toujours basé sur le changement, le mouvement, bouger, etc. Et malgré tout, c'est presque interdit. Moi, j'entends ça depuis toujours, parce que peut-être j'ai des tentations nostalgiques. Faut pas dire c'était mieux avant. On a toujours dit c'était mieux avant. Et non, il y a des choses qui étaient mieux avant. Parfois, il faut peser. La France est un pays extrêmement pessimiste aujourd'hui. Les gens sont tous persuadés que c'était mieux avant, mais il ne faut surtout pas dire que c'était mieux avant.
Mais est-ce que la nostalgie ne déforme pas un peu justement ça?
Ça déforme, mais il y a aussi des choses qui étaient mieux avant. Ça existe. Tout n'est pas mieux après. Il y a des choses qui vont en s'empirant, il y a des choses qui vont en se dégradant. Donc on a l'impression que chaque époque a une espèce de façon de se défendre en luttant absolument contre la tentation nostalgique.
Attention, TGV in partenza, vogliate salire in carrozza e non impedire la chiusura automatica delle portiere. Attenzione alla partenza.
Alors, Benoît Dutertre, vous avez toujours aimé les gares, ces monuments vivants dressés au cœur des villes, ouverts sur des horizons inconnus, comme vous l'écrivez. Vous aimez les quais de gare qui ressemblent à un bord de mer plein de promesses. Ce qui frappe dans la nostalgie des buffets de gare, votre nouvel essai, c'est que cette nostalgie ne s'oppose pas à l'idée de progrès. Ce n'est pas un livre passéiste. Et pour moi, ce livre ne s'appuie pas sur l'air réac du « c'était mieux avant », hein, dont on parlait à l'instant. C'est un réquisitoire documenté, passionné sur ce qui est devenu la SNCF, le voyage en train. La SNCF qui, pour vous, s'évertue à détruire la poésie des gares pour les transformer en aéroports.
Oui, c'est un des sujets du livre. C'est au fond, le modèle aérien a complètement envahi le monde des trains. Alors, on ne le dit pas vraiment parce qu'on est en France, dans un pays où il y a une espèce de mensonge sur le service public. C'est-à-dire qu'on fait comme si on était toujours derrière ce grand service public ferroviaire. Mais en même temps, on laisse les responsables privatiser de l'intérieur. Et ils ont ouvertement choisi le modèle aérien. D'ailleurs, le fameux système Socrate dont on a beaucoup parlé il y a quelques années, ça a été acheté à American
système
Airlines.
Système de réservation. Hein.
Système de réservation, de gestion des trains. Et ça va aujourd'hui beaucoup plus loin. J'ai parlé de la transformation des gares en galeries marchandes, mais c'est aussi la reconstruction des gares à l'extérieur des villes, entourées de ces grands parkings. Vous savez que vous voyez à ex-TGV ou dans d'autres gares comme ça.
Qui sont des non-lieux
et qui ne sont pas reliés au réseau secondaire. C'est-à-dire qu'au fond, on voit là comment on ne peut plus prendre le train sans avoir une voiture, d'une certaine façon. C'est quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'on n'est plus donc dans cette espèce d'idée d'irrigation comme ça de l'ensemble du territoire, mais simplement de mise en place d'un moyen de transport rapide, à haute performance, éventuellement haute rentabilité, encore que, qu'est le TGV, et l'abandon de tout le reste. Donc c'est là. Et ce qui me fascine, et ce qui est un peu le sujet du livre, c'est que tout ça va en même temps dans une époque où on ne cesse de nous dire qu'on est pour le développement durable, qu'il faut favoriser le voyage en train. C'était un des grands thèmes du Grenelle de l'environnement. Donc d'un côté, vous avez un discours de communication politique qui met en avant la nécessité de soutenir les petites lignes, de pouvoir aller en train partout. Et de l'autre côté, vous avez un abandon du service public à des espèces d'entrepreneurs autoproclamés qui généralement sortent plutôt de l'administration et qui gèrent ça d'une façon totalement commerciale sans du tout respecter ces soucis qui sont ceux exprimés par la classe politique.
Dans les nouvelles gares comme la gare Saint-Lazare à Paris, la salle des pas perdus est devenue une salle des pas rentabilisés.
Bah oui, enfin c'est un petit peu cauchemardesque, hein, cette salle. Enfin, non, on peut trouver ça très bien en même temps d'aller à Delimonop quand on sort du train. Hein. On peut aimer ça. Mais pour moi,
enfin, la gare Saint-Lazare est devenue un centre commercial.
C'est un centre commercial et c'est pas un centre commercial très original en plus. Mais peu à peu, toutes les gares sont transformées en centre commercial. C'est qu'il faut rentabiliser l'espace des gares. Donc, c'est comme ça qu'on construit aussi des nouveaux quartiers à Paris. Ça a peut-être d'ailleurs des bons côtés. Mais c'est vraiment, alors là, le triomphe du monde des marques qui est partout, qui a pris la place du monde simplement du commerce. Là, on est vraiment dans la série de toutes les marques internationales qu'on peut trouver effectivement dans n'importe quel aéroport.
Alors la SNCF se dénomme SNCF, comme on dirait Lufthansa ou British Airways. Et dans votre ouvrage, vous persistez à l'appeler la SNCF l'administration des chemins de fer. Et c'est pas anodin, évidemment.
Oui, oui, parce que là aussi, ce sont les marques. Déjà, vous avez remarqué que les trains, la plupart des TGV, eux-mêmes, sont devenus des marques. Hein. Vous avez l'ISEA, vous avez Eurostar, tout ça, ce sont
Thalys.
Des marques qui ont chacune leurs caractéristiques, etc. Donc, on n'est plus dans l'idée d'une compagnie de transport public, mais d'une série de marques qui vont chacune être plus ou moins rentables. Et effectivement, même la SNCF, dans les annonces aujourd'hui, c'est SNCF est heureux de vous accueillir. Donc, SNCF, c'est un nom de marque. Dans Intercité, etc., qui est aussi une sous-marque de la marque, etc. Et malheureusement, ces marques ne sont pas du tout traités d'ailleurs de la même façon par la compagnie, puisqu'il y en a certaines qui sont plutôt en voie d'abandon et d'autres qui au contraire. Donc on est dans un monde, si vous voulez, c'est un peu comme pour le transport aérien où on voit se creuser le fossé entre les conditions de voyage optimales et les conditions de voyage ordinaires, si vous voulez.
Alors je partage avec vous, Benoît Duterte, votre nostalgie pour les wagons-lits qui se réduisent à peau de chagrin.
Hein. Ah mais c'est fini ça, carrément. Ils ont annoncé la fin, la suppression des dernières lignes de train de nuit, donc ce qui vous oblige à prendre l'avion, et ce qui vous oblige en plus, vu que la plupart des compagnies aériennes ont supprimé les liaisons régulières de qualité, à prendre des vols low cost. Donc aujourd'hui, c'est low cost ou rien, quoi. Alors si vous n'aimez pas ça, c'est pas facile.
Et puis contrairement à vous, je n'ai pas connu, hélas, les vrais wagons restaurants où l'on vous servait à table.
Oui, il y en a encore un peu en Europe centrale,
en France,
Roumanie par exemple.
En France, encore non.
Ah non, c'est toujours un spectacle qui me fascine, parce que quand vous êtes dans le TGV, par exemple en première classe, donc les billets sont quand même assez chers, vous avez tout un milieu d'hommes d'affaires qui travaillent sur leurs ordinateurs, et tout d'un coup tous ces gens se retrouvent à la queue leu-leu dans l'espèce de couloir qui permet d'arriver au self-service, où le malheureux type qui travaille en flux tendu doit à la fois faire réchauffer, taper les cartes de crédit, etc. Et tout d'un coup le triomphe de l'homme d'affaires moderne s'effondre dans une espèce de queue qui rappelle les Polonais au temps du communisme, vous savez.
Qui partage autour de la table très vite cette nostalgie du voyage en train tel que le décrit Benoît Duterte, Patrick Dandré?
Moi je trouve que c'est un magnifique sujet, parce que la nostalgie, étymologiquement, c'est la maladie du retour, du voyage. Donc,
ah oui.
La gare, Dieu sait que si la gare de Perpignan était le centre de l'univers, la gare est le centre de la nostalgie.
Éric Libiot, le voyage en train, ça fait rêver au cinéma. C'est un formidable moyen de transport très bien, comment dire, très cinématographique.
Ah ben oui, il n'y a qu'à voir le début de l'Inconnu du Nord Express, par exemple, où on voit se croiser deux paires de jambes, si je puis dire, et une rencontre fortuite qui va amener le film sur des rails, ou la fin de La mort aux trousses, avec la symbolique du train qui rentre dans le tunnel avec Cary Grant et Eva Marie Saint et de l'acte sexuel. Le train, parce que ça se déplace, a toujours, c'est une dramaturgie en tant que telle. C'est un lieu clos, donc une dramaturgie.
Et les consignes dans les gares qui n'existent plus, Benoît Duterte, qui était éminemment cinématographique.
Ah non, par contre, la valanche de consignes dans les trains. Alors, n'oubliez pas d'étiqueter vos bagages.
Les vraies consignes.
Ah, les consignes, pardon. Je pensais les consignes de sécurité.
Non, les vraies consignes.
C'est un autre sujet du livre.
Les vraies consignes.
Les consignes qui ont été supprimées, pour des raisons de sécurité, mais qui n'ont jamais été rétablies, ce qui est quand même un petit peu gênant, parce que quand vous arrivez dans une ville, vous avez envie d'aller faire un tour, de visiter quelque chose, etc. Vous êtes là avec votre valise, vous ne savez pas quoi faire, quoi. On n'a jamais remis les consignes dans les gares, simplement parce que ça occupe de l'espace qui peut être rentabilisé autrement par la SNCF.
Éric Libiot, on se souvient du rôle de la consigne dans Il était une fois en Amérique.
Mais on se souvient de la, oui, et puis du landau qui descend dans le film de Palma. Voilà, la gare est en soi, encore une fois, un lieu clos et un lieu d'espace, donc une dramaturgie en soi, c'est ça qui est formidable.
Et la scène qui n'existera plus, c'est celle du type qui saute dans le train au moment où il part pour retrouver sa fiancée ou pour échapper à des tueurs, parce que c'est interdit maintenant de monter dans le train moins de 2 minutes avant le départ.
Voilà. Il y a le film de Kieslowski, Le hasard, où toute la vie d'un homme se décide, est-ce qu'il prend le train ou est-ce qu'il prend pas le train, et Kieslowski raconte les deux histoires de ce type qui, une fois, prendra le train, une fois, ne le prendra pas.
Ah ben ça marche. Oui, pronto.
Bonjour Bertrand Dical.
Bonjour.
Chroniqueur à France Info, ça sonne faux, c'est ça, tout l'été?
c'est tout l'été, oui. Pendant tout l'été, je m'en prends à des lieux communs et à des on-dit, à des rumeurs sur la musique.
Auteur prolifique, notamment des années 80 pour les nuls, chez First. Alors en France, dans le domaine culturel, nous pratiquons la fuite en arrière, nous regardons un peu trop dans le rétroviseur. Pourquoi sommes-nous tant fascinés par les années 1980 pour le meilleur et surtout le pire? Je suis un enfant des années 80 et je ne regrette absolument pas les chansons immortalisées par le film Star 80. Mais ça fascine beaucoup et ça plaît beaucoup encore en 2015, Bertrand Dical.
C'est vrai que les années 80 sont des années très très paradoxales. C'est-à-dire que, honnêtement, la plupart des gens qui ont vécu, je veux dire adultes ou jeunes adultes, les années 80, n'en ont pas forcément un très très bon souvenir. On détestait le top 50, on détestait les tubes, on pensait que les années 60 c'était vraiment révolutionnaire, les années 70 c'était vraiment révolutionnaire. On avait devant nous, enfin derrière nous, un passé ou un futur qui était meilleur que ce qu'on vivait dans les années 80. Les années 80, on ne s'est pas rendu compte à quel point elles étaient révolutionnaires. Tout a changé, hein. Vous parliez du train, le train a changé, le TGV c'est les années 80, la carte de France modifiée par le TGV c'est les années 80. Donc pendant ces années-là, on ne s'est pas rendu compte d'à quel point elles étaient riches. Et c'est plus tard qu'on regarde dans le rétroviseur et qu'on voit des tubes, qu'on voit des One Hit Wonders, qu'on voit des histoires emmêlées, des histoires qu'on n'avait pas vues, des personnages qu'on avait détestés, dont on se souvient soudain qu'ils sont des gens formidables. Vanessa Paradis, par exemple. Et les années 80 sont un terrain phénoménal pour un penchant que nous avons tous, qui est le penchant au révisionnisme. C'est la tendance que nous avons tous à dire, finalement, moi je ne m'étais pas trompé, mais tout le monde autour de moi s'était trompé, et ce moment-là c'était formidable. Et les années 80 sont des années idéales pour nous permettre ce renversement. C'est-à-dire que si on va chacun faire son examen de conscience, il faut bien se dire que des artistes qu'on respecte aujourd'hui, on les a détestés à l'époque, on a pensé que tel groupe qui dans les années 80 nous paraissait comme le futur de la musique, était finalement un groupe assez contestable.
Merci.
C'est ça qui est intéressant dans cette musique des années 80, c'est qu'on peut en permanence la réexplorer et en permanence la changer. Vous savez, c'est difficile de dire que la Beatlesmania c'était une arnaque, parce que c'était pas une arnaque, parce que les Beatles étaient vraiment des génies. Mais venir et dire aujourd'hui, ouais, non, c'est vrai, Bachoum, au début, on savait pas, et puis rends-toi compte, Gainsbourg, qu'est-ce qu'on le détestait, on détestait Gainsbourg. Et maintenant, c'est Saint Gainsbourg, c'est un des plus grands génies de la chanson française. Donc, on peut, avec plaisir, continuer à faire bouger la cartographie des années 80 pour encore quelques années.
Merci beaucoup, Bertrand Dical. Gainsbourg, oui. Jean-Luc Lahaye, non. Hein. Les années 80 pour les nuls est publié chez First.
Ça va pas la tête?
La seule façon d'arriver à surmonter cette phobie, c'est des cogniers.
Ali Rebéi, ça va pas la tête? Sur France Inter.
Éric Libio, la nostalgie est éminemment cinématographique, notamment, évidemment, Nous nous sommes tant aimés, d'Ettore Scola. Éric Libio.
Oui, en plus.
Avec Nino Manfredi, Vittorio Gassman, film de 1974.
Oui, le titre en lui-même porte justement toute cette notion de nostalgie où il y a aussi un peu de regret, il y a le monde perdu, etc. Alors, ce qui est d'ailleurs symptomatique, c'est que ce type de film, c'est effectivement Nous nous sommes tant aimés, le parangon de ce genre d'histoire, mais il y a eu à Hollywood dans les années 30-40, il y a eu Borzège, et puis après, il y a eu plus près de nous, Laurence Kasdan qui a fait Nos meilleurs amis, nos meilleurs copains, et puis Poiret qui a fait Les meilleurs amis, et puis Denis Arcand qui a fait Les invasions barbares. Donc, et à chaque fois, c'est le même procédé, c'est-à-dire que c'est une génération qui se souvient de ce qu'elle a vécu, des regrets, de ce qu'ils n'ont pas pu vivre, etc. Donc on voit bien que cette nostalgie correspond aussi, l'idée de nostalgie correspond aussi à des générations, et que c'est quelque chose de systématique. Toutes les générations se souviennent, se rappellent de ce qu'ils ont pu, de ce qu'elle a pu regretter, ne pas vivre les rêves qu'ils avaient, qu'elle avait, et puis qu'elles n'ont pas pu vivre. Et c'est vrai que nous sommes tant aimés. Bon, bah, c'est le film, c'est les années 70 en plus, donc ça correspond à une période sans doute un peu charnière dans ce genre de choses. Et puis, bon, c'est un très grand film.
Patrick Dandré, très vite.
Il semble qu'il y a un cinéma qui résume bien cela, c'est celui de Jacques Tati, et qui résume un peu notre débat. Je pense à la première scène des vacances de Monsieur Hulot, où un haut-parleur incompréhensible
précipite une gare, foule
vers des trains qui ne sont pas les bons. On peut avoir la nostalgie du temps où on ne comprenait pas les annonces de la SNCF dans les haut-parleurs.
C'est seulement quand je le vis par-dessus la haie que je reconnus le château. Celui de la peur. De la peur de ma mère.
Marcel !
Oui, c'était là. C'était bien le canal de mon enfance. Je refis lentement le chemin de mes vacances de petit garçon et les chères ombres du passé marchaient auprès de moi. Au pied du mur, tout près du canal, il y avait la porte noire, celle qui n'avait pas voulu s'ouvrir sur les vacances, la porte du père humilié. Il me sembla que je respirais mieux, que le mauvais charme était conjuré. Mais de l'autre côté du temps, il y avait depuis des années une très jeune femme brune qui serrait toujours sur son cœur fragile les roses rouges du roi. Elle entendait les cris du garde et le souffle rauque du chien. Blême, tremblante et pour jamais inconsolable, elle ne savait pas qu'elle était chez son fils.
Un extrait du Château de ma mère d'Yves Robert. Éric Libiot, dans l'équipe, beaucoup ne peuvent s'empêcher de pleurer en regardant le Château de ma mère, un film merveilleux qui fait écho à nos enfances à jamais perdues.
Oui, toujours l'enfance. Et puis ce qu'il y a de remarquable au cinéma, c'est cette idée de... c'est la voix off. C'est-à-dire la voix off marche beaucoup dans la ligne de la nostalgie parce qu'on raconte. Et la nostalgie, il y a un côté conte. C'est « il était une fois ce que j'ai vécu ». Et ces films-là fonctionnent aussi beaucoup comme ça. Et cette voix-là, ça nous replonge... Je me taise.
Non, pas du tout, allez-y.
L'idée du conte, je raconte l'idée de « l'idée d'une fois », encore une fois, de cette répétition, c'est quelque chose qui a trait à la nostalgie et que le cinéma raconte très bien.
Agathe Le Tannandet, très vite.
Bon, Jean-Louis Barrault disait « on a tous une cerisée en nous » et moi j'ai envie de dire « on a tous un château de ma mère en nous ».
Ah, c'est beau. On parlera du Guépard jeudi. On fait une émission sur Proust, on se garde le Guépard pour jeudi.
Éric Libiot. Merci
à tous d'être venus. Merci Benoît Dutertre. Votre très bel essai, La nostalgie des buffets de gare, est publié chez Payot. Merci beaucoup Patrick Dandré, professeur à la Sorbonne. Louis XIV a dit, mots et propos du Roi Soleil, est publié aux Belles Lettres. Merci Éric Libiot de l'Express. Vous pouvez podcaster cette émission sur l'appli de France Inter ou sur franceinter.fr. À la technique ce matin, il y avait Jean-Philippe, Jeanne. Dans quelques instants, vous retrouvez Mishka Sayas. Bonjour.
Bonjour Ali.
Qu'est-ce qu'il y a au programme dans Very Good Trip?
C'est la suite d'hier, c'est la pop baroque version orchestrale et symphonique. Voilà.
Et l'auteur du dictionnaire du rock que vous êtes est forcément nostalgique. Hein.
Mais pas du tout, je pense que la musique, ça vous précipite, ça annule le temps, selon moi. Oui.
À tout de suite.